Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, c'est tout de suite avec Grace Hamzati Massanzi.
À la une de l'actualité ce midi sur Radio Kapi, le président de l'Assemblée nationale de la RDC appelle la communauté parlementaire internationale à s'impliquer pour faire cesser la guerre et les violations des droits humains dans l'est du pays. Vital Kamerhe s'est exprimé ainsi ce mercredi à la 6e conférence mondiale des présidents des parlementaires à Genève en Suisse. Le procès contre l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, se poursuit ce jeudi à la haute cour militaire ici à Kinshasa. À l'audience d'aujourd'hui, les avocats de la partie civile devront exposer leurs moyens de défense et justifier le préjudice causé à l'État congolais par les prévenus Kabila. L'invité de la rédaction est le coordonnateur du programme Bana Okapi au sein de l'unité de partenariat des Radio Okapi. Christian Mapendano parle de la rencontre tenue à Kindu avec les leaders et les radios communautaires lundi dernier portant sur l'engagement de la communauté pour l'amélioration de la vaccination de routine et la lutte contre la polio dans cette province du Maniema. À toutes et à tous, bonjour. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC dénonce les atrocités commises dans l'est du pays et exhorte la communauté internationale à l'action. Vital Kamerhe souligne l'engagement de son pays pour la paix malgré les défis et invite à soutenir la diplomatie parlementaire pour un avenir de stabilité. Dans son discours à la 6e conférence mondiale des présidents des parlements à Genève, le président de l'Assemblée nationale a salué le thème retenu pour cette conférence. Coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous. Vital Kamerhe, dans ses propos recueillis par Michel Kifindangoy.
La situation de la République démocratique du Congo illustre de façon emblématique l'urgence et la pertinence de la diplomatie parlementaire renforcée. Hélas, au moment même où je m'adresse à cette auguste assemblée, la situation sécuritaire à l'est de mon pays demeure extrêmement préoccupante. Des violations massives du droit international humanitaire y sont commises par différentes forces occupantes. C'est avec une profonde tristesse que je vous annonce que dans la nuit du samedi 26 au 27 juillet 2025, des groupes armés ont perpétré un massacre à Komanda, en province d'Ituri, en ciblant des fidèles chrétiens réunis en prière dans une salle paroissiale. Cet acte d'une violence inqualifiable illustre une fois de plus les souffrances endurées par les populations de l'Est de la République démocratique du Congo depuis plus de 3 décennies, dans un conflit qui a déjà causé près de 10 millions de morts. Un véritable génocide oublié.
Pour sa part, le président du Sénat de la RDC a sollicité hier l'implication de la communauté internationale dans la restauration de la paix en RDC. Du haut de la tribune de cette 6e conférence mondiale des présidents des parlements à Genève, Jean-Michel Samalou Kondé invite la communauté parlementaire internationale à s'impliquer bien entendu dans la mise en œuvre des mécanismes pour restaurer la paix durable dans la région des Grands Lacs en général et en République démocratique du Congo en particulier, afin de soulager les populations. Et sur le terrain au Nord Kivu, la situation est tendue ce jeudi encore dans plusieurs villages du groupement Oufamambu Premier. C'est dans le secteur des Katoï, territoire du Masisi. La zone a été le théâtre d'affrontements jusqu'à tard hier entre les éléments de l'AFC M23 et différents groupes armés locaux. Plusieurs sources locales parlent d'une traque menée par le M23 contre les présumés rebelles FDLR et leurs éventuels alliés depuis quelques semaines dans la zone. Une situation qui exacerbe la crise humanitaire dans la région. René-Lit Tibonera pour les détails.
C'est sur la colline Bumba, au sud de Remeka, qu'un accrochage a opposé presque toute la journée d'hier les éléments de l'AFC M23 au groupe armé Wazalendo de Noama Tchano. Ceci intervient après presque une semaine de combats sur l'axe Lukeka-Sengimiole dans le groupement de Kibabi et Nyamaboko. Sur ce dernier axe, c'est le groupe d'un certain Mutayomba, que l'on dit appartenir au FDLR, qui est la cible de ces attaques de la part de l'AFC M23. Des centaines d'habitants de la zone ont dû vider les lieux pour se réfugier vers le groupement Walowayungu en territoire voisin de Walikale. Cette escalade de la violence dans cette zone intervient plus d'une dizaine de jours après la signature à Doha de l'accord de principe entre Kinshasa et l'AFC M23. Dans un télégramme du 21 juillet 2025, repris par plusieurs médias et attribué au commandement de la 3e zone de défense, l'armée congolaise instruit ses troupes de s'abstenir d'attaquer le M23. Toutefois, dit ces messages, en cas d'agression, la riposte des FRDC se doit d'être vigoureuse. Plusieurs sources dans le territoire de Masisi, Rutshuru, Rutshuru et Walikale redoutent une escalade. Selon ces sources, l'instruction du commandement des FRDC arrive alors que l'AFC M23 renforce ses positions depuis le 29 juillet dernier dans l'agglomération de Katekou et Bouleoussa, dans le groupement Ikobo, territoire de Walikale. Une opération de traque de présumés FRDC se poursuit aussi dans plusieurs villages des chefferies de Bouito et Boucha, du territoire de Rutshuru, faisant plusieurs victimes collatérales parmi les civils.
Restons en Nord Kivu, cette fois-ci à Beni, où l'organisation 7 for Common Ground a procédé hier au lancement officiel du projet intitulé « De la base au monde ». Ce programme, lancé par le vice-gouverneur des provinces, vise à responsabiliser les communautés locales dans la consolidation de la paix dans les territoires de Beni, Butembo et Lubero. Les détails avec Marc et Maro Fimbo depuis Beni.
Dans sa mise en œuvre, le projet prévoit d'offrir aux acteurs de la société civile, aux cadres de base ainsi qu'aux autorités coutumières, les moyens et mécanismes nécessaires pour influencer de manière significative et durable les pratiques de consolidation de la paix au Nord Kivu. L'objectif est de promouvoir la cohabitation pacifique et de favoriser le retour de la paix. Le commissaire divisionnaire Louis-Segon Karawa, vice-gouverneur du Nord Kivu, a salué l'arrivée de cette initiative qu'il considère comme une réponse adaptée aux défis auxquels la région est confrontée.
Cet atelier dont nous lançons les activités ces jours arrivent au bon moment au regard de la situation de notre province dans le sens qu'il constitue une réponse à un besoin fondamental, celui de construire la paix à partir de la base en écoutant les populations et en les impliquant activement dans le processus décisionnel. Au Nord Kivu, nous savons à quel point les conflits détruisent les tissus sociaux. Ce projet vient donc y répondre de manière concrète et inspirée de politiques inclusives et efficaces.
Ce projet d'une durée de 8 ans est financé par le gouvernement des Pays-Bas à la hauteur de 27 millions de dollars américains. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
En Ituri, la société civile condamne fermement la dernière attaque armée survenue à Bunia. 3 personnes ont été tuées et plusieurs autres grièvement blessées dans une fusillade au quartier Yambiyaya. Dans sa communication faite ce matin, cette structure s'est dit très inquiète de constater que ces bandits ont opéré sans être inquiétés, ce qui crée la terreur au sein de la population. Elle exige des enquêtes sérieuses pour traduire les auteurs en justice. À Bunia, une correspondance signée Martial Kiza Biamungu.
La scène s'est déroulée la nuit de mercredi à jeudi au quartier Yambiyaya, à plein cœur de la ville des Bunia. Des hommes armés non identifiés ont ouvert les feux sur des civils, tuant 3 personnes, dont une femme, et blessant grièvement 14 autres selon des sources locales. La coordination de la société civile Force Vive de l'Ituri s'insurge contre cette attaque qu'elle qualifie de barbarie insupportable. Selon cette structure, les cas d'assassinat se multiplient dans la ville des Bunia, souvent sans réponse appropriée des autorités. Cela sème la peur dans la population. Elle interpelle les responsables des services de sécurité dans la protection des civils et réclame aussi une prise en charge pour les victimes. Son coordonnateur, Dieudonné Loussa.
Ceux-là qui ont tué les gens la nuit, qui ont blessé plus d'une dizaine de personnes, soient identifiés et transmis devant la justice. Parce que ce n'est pas possible que l'on tue les gens à 19h et on ne sait pas qui ont tué les gens.
De son côté, la police affirmait avoir ouvert une enquête pour retrouver les criminels. Le commandant de la police à ville de Bunia, le colonel Abili Mwangu, demande à la population d'être vigilante et de signaler tout mouvement suspect au service de sécurité. Bunia, Martial Kizabia Mungu, Radio Okapi.
Justice à présent, la haute cour militaire poursuit ce jeudi l'instruction au procès contre Joseph Kabila Kabange. Après l'ouverture introductive vendredi dernier, les avocats de la partie civile, la République, devront exposer leurs moyens de défense et justifier le préjudice causé à l'État congolais par le prévenu, ancien président de la République. À la première audience, ils avaient sollicité une remise afin de compulser les pièces du dossier. Retour sur l'audience introductive avec Jeff Ngoy.
À l'entame du procès, le greffier fait savoir que plusieurs tentatives pour atteindre le sénateur à vie à sa résidence de Kinshasa en vue de lui signifier le mandat de sa comparution ont échoué. Il ressort de l'acte d'accusation plusieurs charges contre Joseph Kabila, notamment en tant que l'un des initiateurs du mouvement politico-militaire AFC, avec pour branche armée M23 appuyée par RDF et les mercenaires de diverses nationalités dans la province du Nord Kivu, co-auteur pour avoir commis par l'intermédiaire de Corneille Nanga, coordonnateur du dit mouvement terroriste, l'homicide intentionnel de 31 personnes, une tentative d'homicide intentionnel sur 21 autres, l'occupation à force ouverte de la ville de Goma à partir du 27 janvier 2025 à la suite des attaques dirigées. Dans la province du Sud Kivu, il est poursuivi en tant que co-auteur du chef des crimes de guerre dont les viols, les tortures, l'homicide intentionnel par balle, l'apologie des actes de terrorisme, déportation, participation à un mouvement insurrectionnel, autant de charges qui pèsent sur Kabila.
Jeff Ngoy Mulonda. Entre-temps, le coordonnateur du Fonds des réparations des activités illicites de l'Ouganda en RDC est réhabilité dans ses fonctions. Le ministre intérimaire de la Justice, Samuel Mbemba, a levé la mesure des suspensions 10 mois après cette mise à l'écart de Mgr François Mwarabu avec toute son équipe. Sitôt réhabilité, le coordonnateur du Frivao rappelle tous les agents et cadres suspendus après lui. Dans un communiqué officiel, il suspend également tous ceux qui ont été engagés après le 13 août dernier. Il leur demande de rester à la maison jusqu'à ce que leurs actes administratifs soient vérifiés. Inauguration mardi à Lubumbashi de l'antenne provinciale du Centre national de correction de l'examen d'État. Il concerne les provinces éducationnelles au Katanga 1 et 2. Pour la conseillère de la ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté qui en a coupé le ruban, la réussite de ces centres pilotes permettra de l'étendre dans d'autres provinces. Dora Mwanda explique son fonctionnement et son importance dans cet extrait sélectionné pour nous par Jean Ganduka Bongo.
Nous avons une salle de dépouillement et puis il y a le lieu de scannage. Ensuite, les informations vont être transférées dans la salle des serveurs et à la salle de contrôle. Toutes les étapes sont respectées. Les machines vont utiliser un programme relié à l'intelligence artificielle, ce qui va permettre de diminuer les erreurs humaines. Il y a toute une équipe qui a été formée pour pouvoir maîtriser ces différentes technologies. Donc il y a un double contrôle. Il y a le contrôle de la technologie, il y a le contrôle humain justement quand l'intelligence artificielle repère une erreur, la correction se fait manuellement, que ça va permettre de décentraliser le travail et du coup d'avoir une meilleure efficacité, une meilleure répartition des tâches. Nous ne sommes qu'une seule équipe, il y a le niveau national et provincial, mais nous avons besoin de travailler ensemble de manière synchronisée, de manière uniforme et ce centre en est la preuve. Donc encore un gros bravo à la province du Katanga pour accueillir ce centre de correction. Le centre est bien protégé, il y a une présence policière, toute la chaîne est respectée dans les moindres détails et de manière précise.
Notons qu'une fois ce travail terminé, les fichiers de ces différentes données seront envoyés à Kinshasa. L'Agence nationale des promotions des industries, ANAPI, sensibilise et vulgarise les réformes du climat des affaires dans la province de la Tchopo. Les opérateurs économiques, les étudiants des établissements de l'ESU, les députés et les ministres provinciaux sont ciblés selon un calendrier établi à cet effet. Le coup d'envoi de ces ateliers a été donné hier au Guest House Le Triangle en faveur des agents et cadres de l'administration publique. Objectif, renforcer leur capacité en vue d'accompagner les efforts du gouvernement national et du gouvernement provincial de la Tchopo afin d'attirer de plus en plus les investissements au bénéfice du pays et de la population. Les explications avec Jacques Mukonkole.
Ces ateliers se tiennent conformément aux recommandations des assises provinciales sur le climat des affaires tenues à Lubumbashi en octobre 2024, rappelle le chef de la délégation de l'ANAPI, Michel Maswapi Kipundo. Le directeur en charge du climat des affaires de cette institution précise que ces assises visent à renforcer les capacités des agents et cadres de l'administration publique au cours de ces deux premiers jours avant de s'étendre à d'autres catégories socio-professionnelles selon un calendrier préétabli. Notamment les opérateurs économiques, les ministres et les députés provinciaux, les membres de la société civile, ainsi que les étudiants des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. La finalité est d'installer la cellule provinciale du climat des affaires de la province de la Tchopo. Avec les cadres et agents de l'État, ils ont discuté sur la feuille des routes et la nécessité de mettre en place des stratégies en vue de la pérennisation de leur impact sur le terrain. Prochaine catégorie après l'administration publique, les ministres et les députés provinciaux. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Après Luanda, les violences s'étendent en Angola. C'est la seule manière de se faire entendre. Au troisième jour d'une flambée de violences déclenchée par l'annonce d'une hausse des prix du carburant, le ministre angolais de l'Intérieur a fait état mercredi d'un nouveau bilan provisoire de 22 morts et de plus de 1000 arrestations. Un important dispositif militaire et policier déployé dans des rues désertes, des banques et des commerces fermés. Après deux jours d'affrontements entre forces de l'ordre et manifestants, un calme précaire régnait ce mercredi à Luanda et la tension restait palpable.
L'invité.
C'est Christian Mapendano, coordonnateur du programme Ban Okapi au sein de l'unité des partenariats des Radio Okapi. Il revient sur la rencontre tenue à Kindu le lundi avec les leaders et les radios communautaires portant sur l'engagement de la communauté pour l'amélioration de la vaccination des routines et la lutte contre la polio au Maniema. Il a été révélé que 81% des femmes de cette province ne maîtrisent pas le calendrier vaccinal. Christian Mapendano s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Christian Mapendano, bonjour.
Bonjour, Madame Florence.
Pourquoi aujourd'hui Radio Okapi se lance dans cette série de sensibilisations sur l'engagement communautaire pour l'amélioration de la vaccination des routines et la lutte contre la poliomyélite au Maniema?
Disons que ce n'est pas seulement aujourd'hui. Je fais partie de l'unité de partenariat au niveau de Radio Okapi. Et au sein de cette unité, nous avons un partenariat avec l'UNICEF dans le cadre de cette mobilisation communautaire, appuyer la communication dans le cadre de la sensibilisation en faveur de la vaccination, mais également la lutte contre la poliomyélite. Et c'est dans ce cadre que nous sommes dans le Maniema, afin de mobiliser la communauté, engager les radios communautaires, mais également les leaders communautaires, afin qu'ils puissent s'impliquer activement pour lutter, pour relever les défis de la vaccination dans cette province.
Comment est-ce que vous avez trouvé la situation de la vaccination dans la province du Maniema?
Il faut dire qu'avec les spécialistes de la santé, le programme élargi de vaccination, mais également la division provinciale de la santé. Les données qui ont été présentées font état, en tout cas, d'une situation très alarmante. On a plus de 48% d'enfants qui sont à l'état zéro, de zéro dose hein, de la vaccination, ce qui prouve qu'on a encore du travail à faire ici. Et les défis qui ont été présentés, il y a notamment le manque d'intrants qui est très très fréquent ici. Il y a également les barrières socio-culturelles, mais aussi des obstacles naturels qui empêchent les gens d'aller se faire vacciner. Il y a aussi cette théorie de complot qui est souvent prêchée selon, en tout cas, les spécialistes de la santé sur place et qui fait qu'il y a des parents qui n'arrivent pas à faire vacciner leurs enfants, ce qui est un danger pour la communauté.
Mais il a été révélé aussi que 81% des femmes ne maîtrisent pas les calendriers vaccinales. Vous, Radio Okapi, dans votre philosophie, comment est-ce que vous comptez impliquer aussi les femmes dans cette sensibilisation?
C'est cela, effectivement, comme vous le dites, le rapport de monitoring Tanashi 2023-2024 a prouvé que les femmes, et disons même les papas, si les femmes ne sont pas informées, c'est que les papas qui s'impliquent moins dans la vaccination de leurs enfants, eux, c'est carrément peut-être vers les 100%. Nous avons également plus de 17% de femmes dans le Maniema qui accouchent à domicile, ce qui fait qu'elles n'ont pas réellement l'information sur la vaccination, sur le calendrier vaccinal. Et c'est pour cette raison que nous avons mobilisé la communauté. Nous avons demandé qu'il y ait une synergie entre les radios communautaires qui sont quand même suivies au niveau de la province. Nous avons des leaders communautaires, ce sont des pasteurs, ce sont des chefs de quartier, des leaders des associations féminines et de la jeunesse qui sont respectés au sein de la communauté et qui doivent en tout cas jouer un rôle catalyseur pour que les femmes, pour que les hommes, pour que tout le monde puisse s'impliquer activement et que la vaccination soit une réalité au Maniema, que tout le monde s'implique. Nous l'avons vu avec les femmes par exemple du marché Tchomba qui à peine à avoir participé à notre atelier, elles ont commencé déjà avec des mobilisations le soir pour impliquer les autres femmes pour les amener à adhérer à la politique de vaccination parce que comme le disent les autorités, comme le disent les spécialistes de la santé, la vaccination sauve des vies, la vaccination c'est l'unique moyen par lequel on peut sauver des populations contre des maladies qui n'ont pas jusque là de médicaments mais qui sont évitables grâce à la vaccination et parmi ces maladies a dit la poliomyélite.
Certains condamnent la façon que le programme n'implique pas surtout les femmes, surtout les hommes dans la campagne de sensibilisation. Cette fois-ci, comme vous avez été avec les autorités sanitaires, qu'est-ce que vous avez prévu pour ça?
Disons que nous venons en appui effectivement aux autorités. Il ne nous revient pas en fait de définir leur politique, mais les recommandations ont été telles qu'il faudrait que tout le monde soit impliqué. Nous avons vu par exemple des radios communautaires qui ont affirmé qu'avant, elles avaient des espaces pour la sensibilisation en faveur de la santé. Mais parce qu'il n'y avait pas d'animateurs, ces espaces ont dû être fermés. Et notre rôle, effectivement, c'est de créer, de raviver cette synergie afin qu'il y ait collaboration entre les acteurs communautaires, entre les journalistes, les médias communautaires, mais également les professionnels de la santé, parce que c'est en collaborant que nous pouvons relever les défis ensemble. Et désormais, nous sommes convaincus qu'il y aura cette collaboration entre tous ces acteurs en faveur de la santé publique dans le Maniema.
Monsieur Christian Mapindano, merci.
Merci, Madame Florence.
Et si vous écoutez Radio Kapi au quartier Kimbuyungu à Kindu dans la province du Maniema, il est 13h20 par ici s'achève ce journal coordonné par Élisée.